votre nouvelle sans aucun problème. Ok. Alors, ce que je voudrais que l'on fasse ce matin, et tu peux enregistrer, hein, Morgan, ce que je voudrais que l'on fasse ce matin, d'abord je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur Internet. Je vais même vous dire mieux que ça, il y a plus de gens qui nous écoutent sur Internet que de gens qui viennent à l'église le dimanche matin. Pour l'instant, nous sommes en train d'appeler 100 personnes au culte tous les dimanches, je vous encourage à le faire. C'est pour ça qu'on met 100 chaises dans la salle maintenant le dimanche matin, et nous croyons que toutes ces chaises sont remplies et qu'il nous faut déménager rapidement parce qu'il n'y a plus assez de place. Ou multiplier les cultes, ce qui serait aussi une solution. Mais bon. Donc bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Et ce qu'on va faire ce matin, un petit peu différemment, c'est que on va vous entendre. Je parlais avec le pasteur et elle me disait, tu sais, il serait bon aussi que les gens puissent témoigner de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Pas seulement à travers leur vie, mais dans leur vie, pour eux. Elle me disait, pourquoi ne pas demander aux gens qui le souhaitent, eh bien, ce que l'expérience qu'ils ont faite avec Dieu qui a vraiment tout changé, celle qui les a marqués le plus, celle qui les a transformés. Alors, il peut y en avoir plusieurs, si vous êtes au Seigneur depuis longtemps, il peut y en avoir plusieurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, oui, je sais que Dieu est vivant. Moi, je sais que Dieu m'a changé parce que j'étais comme ça et je ne suis plus comme ça. Ou parce que j'ai traversé ça et il a fait ça. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole à ce sujet ce matin? On rend grâce à Dieu. Bon, on est en comité réduit, hein, donc on est en, on est en famille. Quelqu'un veut prendre la parole? Allez, Laurence, viens. Ouvre le bal. Alors, c'est pas non plus une occasion pour raconter sa vie depuis qu'on a 12 ans. Hein. D'accord. On essaye de faire concis, disons 2-3 minutes, mais concrètement.
Bon, alors concrètement, avant Jean-Marc dans ma vie, j'étais pas chrétienne.
Jean-Marc, c'est son mari.
C'est mon mari, il est là. Et il me parlait du bon gâteau qu'il voulait me faire découvrir et qu'il voulait me faire goûter parce que la vie avec Dieu, pour lui, c'était comme un bon gâteau qu'il en a toujours, tout le temps. Et voilà, il voulait me faire goûter ça. Et quand je l'ai rencontré, j'étais en froid presque avec mon papa qui s'était remarié avec une femme que je ne comprenais pas. Et j'avais écrit une lettre sous la colère et j'avais dit « c'est plus possible, c'est pas possible » et bim. Et j'ai coupé les liens avec lui et par Jean-Marc, me dit « mais c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu fasses quelque chose ». Et c'est une des premières fois où j'ai crié à Dieu, où j'ai pleuré, je me suis mise par terre, cachée derrière mon lit comme une misérable, et j'ai fait mon mea culpa, j'ai appelé mon papa, j'ai fait mon mea culpa envers ma belle-mère, je lui ai parlé à elle, je lui ai demandé pardon, je me suis excusée pour mon attitude de petite fille, capricieuse, qui voulait garder son papa pour elle, et puis ma vie a changé à partir de là, tout s'est embrayé, bon vous connaissez une partie de ma vie. Je voulais juste apporter un autre témoignage par rapport aux finances. Je travaille dans une grosse société qui brasse beaucoup d'argent, mais je suis une employée d'une société extérieure, un consultant si vous voulez. Donc je ne bénéficie pas des conditions des employés de la grosse société. Et on a un tout petit salaire, on n'est pas augmenté, les gens qui sont là depuis 15 ans plafonnent au SMIC depuis 15 ans. Et moi ça fait 2 ans que je suis là et j'ai osé demander une augmentation. Alors, j'avais tapé haut. Hein. J'avais demandé 10% de mon SMIC horaire, de mon taux horaire. Et j'ai eu 3,5%. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais les filles qui sont là depuis 15 ans, elles ont eu 20 centimes, elles ont eu même pas 2%. Moi, ça fait 2 ans que je suis là, j'ai demandé une augmentation, on m'a donné 3,5%. Et j'y croyais pas, quoi. Gloire à Dieu. Donc, c'est tout petit, c'est une petite chose, mais au niveau de la société, de ce qui se pratiquait, c'était quand même énorme. Donc, voilà, merci Seigneur.
On proclame la faveur, merci Seigneur. On proclame la faveur et ça fonctionne. Quelqu'un d'autre veut partager une expérience qu'il a faite avec Dieu? Oui, Morgan?
Bonjour à tous. Moi, j'ai expérimenté Dieu de façon assez forte. En fait, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il y a de ça à peu près un peu plus de maintenant 2 ans. Avec ma femme, on a vraiment reçu en fait le désir de venir dans cette église. On vivait en région parisienne. Donc voilà, j'avais un travail tout à fait confortable. Et puis on avait même prévu d'acheter un appartement dans la région parisienne pour assez proche de mon travail. Mais malgré tout, il y avait des choses qui on attendait que le Seigneur nous parle ou qu'il y ait une sorte de signe pour voir quelle va être la prochaine étape. Et puis je me souviens que ma femme qui a eu vraiment un désir profond vraiment de changement qu'elle a partagé avec moi et justement connaissait l'église La Bonne Nouvelle par le ministère d'Andrew Womack qui était à 1000 km de là où nous habitions. Donc on s'est dit on avait vraiment à cœur de connaître mieux cette église et de tout simplement de la découvrir. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est de tout simplement écouter les messages sur Internet, comme le pasteur dit souvent, si vous nous écoutez sur Internet, il nous parlait à nous à ce moment-là, à cette époque. Et donc on a commencé à écouter vraiment les prêches et on a vraiment eu une conviction dans notre cœur de venir ici. Et concrètement, comment ça s'est passé? On a fait des pas de foi, donc au travail notamment. Un soir, je parle avec mon chef et je lui dis j'ai à cœur de partir à Nice. Donc c'était un petit peu dur pour moi de sauter le pas. C'est vrai que j'avais un petit peu il y avait certaines peurs, mais j'ai remis ça au Seigneur. Et puis donc plusieurs semaines après, mon chef en fait revient vers moi et me dit on peut te proposer du télétravail. Donc en fait, ce qui m'a permis après ça de pouvoir venir en fait sur Nice, tout en continuant à travailler avec mon entreprise à Paris. Donc on a pu s'installer, on a pu vraiment trouver notre place ici, s'intégrer dans l'église et trouver aussi faire notre nouvelle vie ici en famille. Entre-temps, ma femme était enceinte, donc avec tout le déménagement, ça a été mais le Seigneur a pourvu à chaque fois, même pour l'emménagement. Et donc une fois donc je suis arrivé sur place, en fait mon contrat de télétravail devait être pour 4 mois. Donc je suis arrivé mai de l'année dernière. Donc c'était censé se terminer en septembre et quelques mois après, mon chef me revient me voir et me dit on va l'étendre jusqu'à octobre. Donc ça a été étendu jusqu'à octobre. Et encore une fois, après, ça a été étendu jusqu'à fin janvier. Donc jusqu'à fin janvier, j'étais dans une période de recherche de travail, jusqu'à fin janvier. Donc j'avais des entretiens, les choses continuaient, mais j'avais pas le travail qui venait. Et puis courant février, donc début février, donc je quitte mon travail, je dis au revoir à mes collègues, on est donc à Nice, donc j'ai ma femme, j'ai 2 enfants, donc j'attends la provision du Seigneur. Et donc j'ai un premier entretien, ça se passe assez bien, même très bien puisqu'ils veulent me revoir. Et un dimanche, j'ai un frère, donc en l'occurrence Jean-Marc, qui vient me voir. Et qui vient de me dire, on a une offre d'emploi qui vient de s'ouvrir début février. Est-ce que ça t'intéresse? Donc, moi, je réponds du coup, je lui envoie mon CV, etc. Et puis les choses se font vraiment dans la foulée, 1 semaine, 2 semaines après. J'ai des entretiens. Et au moment en fait où je suis censé donner une réponse à cet autre entretien, je vois qu'il y a vraiment la provision sur ce travail. Et merci, gloire à Dieu, parce que en fait, j'ai un nouveau travail et je commence demain. Donc c'est Seigneur a vraiment pourvu, et il est vraiment fidèle et il a pourvu au bon moment. Donc je marche sur sa parole et il est pourvu.
Qu'est-ce que ça fait en toi de voir la provision de Dieu se manifester de la sorte?
En fait, ça me donne encore plus envie de me reposer sur lui. Parce que je le vois de mes yeux, j'ai la foi, je vois cette foi manifestée et je me dis mais finalement j'ai pas de chaque montagne que je peux avoir devant moi par la foi elles vont s'abaisser. C'est juste une question de temps et faut vraiment être patient et à un moment donné ça va se faire et garder nos yeux surtout sur le Seigneur. Ça me donne juste envie de garder mes yeux encore plus que jamais sur le Seigneur. Parce que c'est lui qui pourvoit et c'est pas dans mes propres forces. Moi, j'ai vu dans cette expérience que ce que j'ai fait de mes propres forces, ce qui m'a été donné dans mes propres forces, ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur a pourvu. Donc voilà, de rester humble et rester tourné vers lui.
Super, voilà. Gloire à Dieu, merci.
Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que Morgan vient de dire. C'est qu'un dimanche matin, en fait, moi, je recherchais un ingénieur pour faire de la méthode. Donc, c'est quelque chose d'un peu particulier depuis plusieurs mois. Et j'avais reçu plusieurs candidats et ça ne l'avait jamais fait. Et un dimanche matin, j'étais là, Morgan était là. Et ce job qu'il a, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné. Hein, parce que je regarde Morgan, je dis, mais il est là. Il est là, mon ingénieur, en fait. Il est là. Et tout de suite, j'ai dit à Morgan, je lui ai fait signe. Après, il faut qu'on se parle. Et il commence demain.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager une expérience ? Viens, Guy. Ouais. Une expérience faite avec Dieu. Et l'objectif pour moi, c'est non seulement de rendre gloire à Dieu pour montrer qu'il est fidèle et qu'il est bon, mais en plus, de dire, mais toi, comment tu as changé à travers cela ?
Bonjour à tous. Je viens aussi de Paris, hein, donc et un truc qui se passe ici sur la Côte d'Azur, je ne saurais comment l'expliquer. Voilà, une des choses que Dieu a faites, hein, c'est de me faire partie de Paris, que je sorte de ma zone de confort, c'est-à-dire mes parents, mes sœurs, et que je parte de là pour venir. Si c'était pas évident, parce que mes sœurs, ce sont comme des Amazones pour moi. Voilà, donc c'était pas évident de partir de là parce que je veux pas dire que je suis capricieux, mais avec elle, ça se passait mieux, c'était plus facile pour moi. Et je suis descendu sur la Côte d'Azur, j'étais forcément hyper endetté, seul, oui, pas de travail, pas d'appartement, mais avec une conviction forte que je n'avais jamais expérimentée avant, c'était il fallait que je descende. Et quand je descendais, je suis descendu avec la paix dans l'âme. Je ne saurais jamais comment expliquer cette paix, mais j'étais en paix. En paix par rapport à mes sœurs déjà, parce que c'était quand même, au niveau du confort, c'était considérable. Et puis en paix parce que je n'avais pas peur de l'avenir, quoi. Les premiers mois ont été difficiles, mais finalement, j'ai trouvé un logement, j'étais logé par un frère de cette église, et j'ai vu la main de Dieu, c'est-à-dire que tous les frères et toutes les sœurs de l'église La Bonne Nouvelle, lorsqu'ils voyaient une offre d'emploi qui correspondait à mon profil, me contactaient de suite, m'appelaient, me disaient, voilà, on a vu ça pour toi. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc, j'ai été endetté, et ça va faire, je suis descendu sur la Côte d'Azur la nuit du 7 au 8 septembre 2013. Nous sommes aujourd'hui le 10 mars 2019, je suis libéré des dettes. Je suis sorti de la zone rouge depuis maintenant 6 mois. Ça fait bizarre de voir son compte. Quand tu consultes ton compte, tu vois les chiffres verts, tu vois, ces verts là. Alors qu'avant, j'appréhendais d'aller consulter mon compte parce que je savais que c'était une catastrophe, quoi. C'était moins 1000, moins machin, moins à chaque fois moins. Et j'ai vécu comme ça pendant près de 11 ans. À me servir de mon découvert à chaque fois et pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'avais 10 cartes de crédit. Sofinco, Kofinoga, machin. J'avais toutes ces cartes-là. Et il n'y a que le Seigneur seul qui a su me faire sortir de là. Et aujourd'hui, j'ai appris à gérer. Je ne savais pas gérer l'argent. Je ne savais pas. Le Seigneur m'a aidé. Il a mis sur moi des personnes de cette église qui m'ont appris comment gérer de l'argent. J'avais aussi un problème avec la communication. Et l'entretien des relations. Le Seigneur a commencé à me travailler à ce niveau-ci également. Donc aujourd'hui, je peux dire que je me sens neuf aujourd'hui dans mes rapports avec mes frères et sœurs, dans mes rapports avec mes collègues. Et une chose formidable qui m'est arrivée, j'ai rencontré une femme. Vous ne pouvez pas savoir, c'était pas évident. Ah oui! C'était pas évident parce que des femmes, on en croise, mais celle qui vraiment avec laquelle on sent que, voilà, on peut aller quelque part, qu'on a vraiment le feu vert, je l'ai enfin rencontrée au bout de 10 ans. 10 ans! C'est long. 10 ans, c'est long. Donc, ça, Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Et cette relation aujourd'hui est en train de m'aider à apprendre à entretenir les relations. Parce que 10 ans de célibat, on accumule des façons de faire. Hein. On a du mal à partager, on est possessif, on est tout ce que tu veux. Et on a les projets en grand, on veut être vu sur la toile. Il y a plein de choses. Tout ça pour se faire remarquer, de façon à ce qu'on puisse enfin avoir une femme qui nous voit par rapport à ce que nous sommes. Et alors qu'en réalité, voilà. Donc il y a des trucs comme ça qui, aujourd'hui, m'apprennent à développer une relation, à entretenir une relation. Ce que je ne savais pas faire, je ne savais vraiment pas communiquer avec les femmes. J'avais la tchatche, mais ça ne suffit pas. Il faut communiquer. Et j'ai appris à communiquer. Et cette communication, j'ai réussi à apprendre ici à l'église. Et il y a une autre chose aussi importante. Vous me voyez derrière la sono, je ne savais pas faire ça. J'ai appris à faire la sono juste au moment où on m'a tendu la main, on m'a dit, mais est-ce que ça te dirait de venir? J'ai dit, comme les autres, hein, j'ai dit, oui, je vais essayer. Et j'ai essayé et j'ai été formé. Et je continue encore à être formé, et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, je ne pouvais pas imaginer un jour que je saurais me servir de ces boutons qui ressemblent à un tableau de bord d'un avion. Moi, au début, oui, c'est vrai, un tableau de bord, et que je saurais comment gérer le son, donc tout ça, vraiment, je rends gloire à Dieu, que sans lui, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui.
Qu'est-ce que ça, dans ta relation avec Dieu, qu'est-ce que les expériences dont tu viens de parler, est-ce qu'elles ont changé quelque chose?
Oui. J'avais du mal à accepter la grâce de Dieu. Dans cette relation, j'ai appris à recevoir la grâce de Dieu sans contrepartie. Voilà. Parce que quelque part, j'avais un peu grandi dans cette relation avec Dieu où je pensais que c'était un échange, comme je fais avec les autres. C'est-à-dire que je fais une chose et Dieu doit pouvoir. Or, Dieu m'a démontré qu'il n'avait pas besoin que je fasse quelque chose pour lui, pour qu'il fasse quelque chose pour moi. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui continue à se passer maintenant. Et aujourd'hui, des fois, je reste juste un spectateur, et je vois Dieu faire les choses. Voilà. Mon salaire aussi a augmenté, j'ai oublié de vous dire. Hein. Voilà, on parlait d'augmentation, tout ça. Et je ne pensais pas qu'un jour, je pouvais me proposer à avoir une promotion à mon boulot, parce que j'aurais souhaité passer cadre. Donc, je me suis dit, mais dans cette activité, ce n'est pas évident de devenir cadre. Mais l'idée est venue, donc voilà. Que dire de plus? Ce n'est pas moi qui suis allé chercher, c'est venu. J'aurais peut-être fait des mains et des pieds pour pouvoir avoir cette promotion, mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que, cool. Langsam, comme on dit chez les Allemands, doucement. Lâche-toi, laisse-toi faire. Laisse le Seigneur faire. Il saura te dire ce qu'il faut faire. Il saura quand te dire aller à gauche, quand te dire aller à droite. C'est ce que j'ai appris avec le Seigneur.
Gloire à Dieu. Amen. Merci. Et je dois dire que Guy est fidèle à la sono depuis des années maintenant. Et j'ai hâte de voir en quoi ce que tu as appris par ce pas d'obéissance-là va te servir dans ta vie privée. Parce que je l'ai toujours vu, moi, quand on sert quelque part, quand on accepte de servir Dieu quelque part, il nous change, mais on acquiert également des compétences qui nous servent ensuite à l'extérieur. Et il y a les rapports humains que tu as pu avoir avec moi, avec ceux de l'équipe, etc., en étant à cette-là, mais les compétences que tu as acquises, je suis certain que ça te servira tôt ou tard. Certain. Bon, super. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre veut partager une expérience qu'il a eue avec Dieu ou... Viens.
En fait, c'était cette semaine. J'étais à la réunion de prière donc, à l'église, dans notre église. Et donc, on attendait le pasteur Marie-Hélène qui devait arriver. Et j'étais avec le pasteur Elisabeth dehors. Et puis, il y a une voiture qui arrive et qui se gare devant le portail, en fait. Bon, le portail était ouvert, qui se gare devant le portail. Donc, le pasteur Elisabeth va voir cette personne et dit « Vous pouvez pas rester là ?» Non, mais je n'en ai pas pour longtemps. Et puis moi, j'arrive. Donc deux dames sortent, et donc c'est des dames qui habitent l'immeuble, et il y en avait donc une des dames en fait qui était visiblement c'était la mère et la fille, et donc la plus jeune était avec un tchador, hein, donc tout en noir, et puis la maman était habillée un peu plus un peu plus on va dire pas moderne mais un peu plus occidentale, et puis le pasteur Elisabeth me dit, bah tiens, propose-leur peut-être d'aller les aider. Et puis moi, je dis, oh, quand même, quoi. Puis surtout, je me suis dit, si jamais il y a les gars qui sortent, ils vont me voir et vont me dire, qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Donc, au début, j'étais un peu réticent. Et puis, je voyais derrière le siège, la voiture était bien remplie. Il y avait des gros packs d'eau, tout ça. Donc, je dis, bon, allez, j'y vais. Et puis, je dis, bonjour, je peux vous aider? Et puis, non, c'est gentil, monsieur. Et puis, bon, je m'approche quand même. Et là, la dame plus âgée vient me voir. Et puis, elle me dit, qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Elle me dit, c'est vrai qu'il va y avoir une église? Je dis, ben oui, il va y avoir une église. Oh, qu'est-ce que c'est bien! Elle me dit, mais c'est super qu'il y ait une église ici. Alors, la jeune fille vient et puis elle me dit, mais c'est une... Alors, jeune fille, c'est une jeune dame. Elle dit, mais c'est une église catholique, une église protestante? Je lui dis, non, c'est une église protestante. Et après, il y a le pasteur Elisabeth qui arrive en même temps. Et puis elle me dit, oh, on est content, hein, on est content. Surtout qu'apparemment, il devait y voir autre chose, donc on est content. Et donc, le pasteur Elisabeth dit... à la dame, il dit, en plus, il y aura du café, il y aura des choses. Ah ben, moi, je viendrai boire le café chez vous, hein, je vais venir. Hein. Et je me suis dit, c'est extraordinaire, en fait. C'est extraordinaire parce que c'est des gens qui sont certainement musulmans. Et puis, voir ça, on se dit, c'est des gens musulmans qui vont rentrer dans une église protestante. Et je me suis dit, mais la gloire de Dieu, quand on sait la manière dont on était... on va dire traité et les gens appréhendaient vraiment notre venue donc, dans ce bâtiment. Les premiers temps, je me dis aujourd'hui, quoi, moi j'ai vraiment hâte qu'on y soit. Et quand on priait une fois, le pasteur Elisabeth me le faisait remarquer vendredi, une fois on priait aussi pour le bâtiment. Et notre présence en fait en bas irradiait le haut en fait. Irradiait le haut. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, en fait. Je me suis dit, mais le Seigneur a fait vraiment des choses extraordinaires, quoi, voilà. Donc, c'est génial.
Est-ce que ça t'a... Est-ce que toi, tu... Dans ta relation avec Dieu, le fait de traverser ce genre de choses, ça change quoi quand tu pries? Ça change quoi quand tu...
Ben, ça change que... en fait, alors, depuis... Ça fait deux semaines maintenant. En fait, avant, il y a quelques années, je me levais plus tôt le matin... pour prier, et je l'avoue, j'ai laissé tomber complètement ça parce que je priais plus le matin. Et ça fait 3 semaines maintenant que je me lève tous les matins plus tôt. On a une chambre en bas de chez nous et je me réserve un temps tous les matins et je prie et j'ai la parole. Et je sens qu'il y a quelque chose. Alors surtout, avant, je lisais la parole aussi. Comme Marc me disait un jour, le pasteur Marc me disait, il ne faut pas lire comme on lit ni ce matin en fait. Et je lis la parole comme j'ai dit ce matin. C'est-à-dire que je tombais sur des versets, je comprenais rien, mais je lisais. Hein, il fallait manger. Hein, donc je lisais. Et puis j'arrivais à la fin et je me disais, mais allez, c'est bon, je suis content. Voilà, j'ai lu mes 3 pages, impeccable. Et puis finalement, il ne se passait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, je lis, en fait, je commence par prier en disant, Seigneur, je veux comprendre. Parce que si c'est pour lire et pas comprendre, ça ne sert à rien du tout. Hein, quand je lis une documentation technique dans le cadre de mon travail, si c'est pour lire et rien comprendre, ça sert à rien. Donc, je veux lire et comprendre. Et je commence à lire. Et avant, ça me faisait ça aussi, c'est que mon esprit commençait à divaguer sur des choses que je dois penser. Et je fais machine arrière et je reviens. Je dis non, stop, je m'arrête. Quand je comprends pas. Et des fois aussi, je ne comprends pas et j'ai tendance à continuer. J'arrête et je prie. Je dis non, stop, je veux comprendre. Et miraculeusement, je me mets à dire waouh, mais je n'avais pas compris ça en fait. Et là, je comprends ce que je suis en train de lire. Je comprends ce que je suis en train de lire. Et donc, je prends, en fait, je suis dans 1 Corinthiens et j'ai commencé par là parce que j'avais envie de ça. Et puis voilà, sur mon téléphone, là, je lis 1 Corinthiens, donc je prends les chapitres en entier. Et puis je comprends, en fait. Alors, ce que je ne comprends pas, en fait, on a possibilité sur le téléphone de mettre en surbrillance, là. Et je me dis, ah, je me garde ça. Et puis un jour, vous allez voir mon pasteur préféré pour lui dire...
Qui te recommandera un bon livre sur le sujet.
J'ai pas compris ça, tu peux me... Voilà. Donc voilà, c'est ce qui a changé et je me dis voilà, bon, ce travail que je fais moi, le Seigneur le voit parce que c'est un moment où on passe, voilà, c'est un moment qu'on passe tous les deux et par rapport à mardi soir là, voilà, je me dis le Seigneur est grand quoi parce qu'il fait des grandes choses quoi. Amen.
Amen. Amen. Merci.
Et comme tu le disais justement, il dit dans cet immeuble, il y a des gens musulmans. Ce qui est le cas. Mais avant d'être musulman, c'est des gens. Dans la phrase. Et c'est exactement ça. Ce sont des gens, comme nous. Donc, c'est cet état d'esprit-là qu'il faut qu'on garde. Quelqu'un d'autre veut partager une expérience qu'il a faite avec Dieu ? Ce n'est pas forcément quelque chose de récent. Hein. C'est qu'est-ce qui a... Viens, maman. Qu'est-ce qui vous a transformé dans votre relation avec lui ?
Transformé, c'est le mot qui convient. Donc, bah, écoutez, moi, je vais vous dire, il y a eu un avant et il y a eu un après. Et ça a été radical. C'est-à-dire que le dimanche matin, non, le dimanche après-midi, j'ai accepté d'aller entendre la parole. Mais j'y suis allée en espérant que ce serait très rapide et que je pourrais sortir très rapidement. Oui, sauf que le Seigneur avait... Ouais. J'y suis allée, je l'avoue, pour me débarrasser de cette invitation. Ça a été fulgurant. C'était le dimanche après-midi. Le lundi, la vie a basculé complètement dans le bon sens. Et depuis, c'est non-stop. Voilà, c'est non-stop. La parole nous donne ce que nous devons avoir et ce que nous devons partager. Oui, on peut témoigner, et témoigner quand on a été très réservé et qu'on n'osait pas parler, et qu'aujourd'hui, on peut parler à quiconque, dans n'importe quel endroit. Pourquoi ? Parce qu'on est des témoins qui sont fiables. Tellement fiables que j'ai un journal qui est grand comme ça, que je tiens à jour avec les prodiges et les miracles que le Seigneur a accomplis et continue d'accomplir. Et ça, ce sont des témoignages incontestables parce qu'il y a des gens qui ont besoin, j'en étais, de concret. Et si ce sont des théories, c'est très bien. La philosophie, c'est très bien. Il y en a beaucoup. Mais du concret dans la vie des personnes, ça impacte et c'est ce qui touche. Et ces prodiges et ces miracles, je les note avec une date, un lieu et des circonstances en deux ou trois lignes. Eh bien, croyez-moi, la parole de Dieu, elle est active et elle fait son effet. Il faut la parler, il faut la mettre en pratique et il faut la partager. Et ce qu'on peut voir avec les interventions du Seigneur dans nos vies, c'est absolument incroyable. Parce que quand vous entendez des personnes à qui vous témoignez et qui vous appellent en vous disant « c'était impossible que j'ai ça, c'était impossible que j'accède à ça », c'est encore le cas cette semaine. Et j'espère pouvoir emmener cette jeune femme musulmane à qui j'ai témoigné et qui me téléphone il y a deux soirs en me disant « Lisa, c'était impossible que j'ai ça. Tu m'as parlé, mais je n'ai pas hésité à lui dire avant « je vais prier pour toi, mais je te dis qu'en tant que chrétienne, je vais prier au nom de Jésus et tu vas voir ce qui se passe. » Et nous ne devons pas avoir honte de proclamer le nom de Jésus. On ne doit pas avoir peur. Si les gens ne sont pas ouverts, tant pis, ils ne sont pas ouverts. Mais croyez-moi, quand vous proposez la prière à des gens qui ont des besoins, croyez-moi, personne ne vous refuse. Personne. J'ai encore eu personne qui m'a refusé en disant « non, non, ça m'intéresse pas ». Voilà. Et quand on vous appelle en vous donnant les témoignages aussi puissants qu'on est en train de vous donner, d'abord, on crie comme je le fais, gloire à Dieu. Et tout le monde entend dans l'entourage, c'est pas grave. Merci Seigneur. Et la gloire est d'abord à lui, parce que les gens vous remercient quand ils ont eu un exaucement. Et c'est là qu'il faut dire, mais c'est pas moi qu'on doit remercier, c'est lui qui a fait. comme je te l'ai dit, comme je vous l'ai dit, la gloire est à lui, la bénédiction est pour la personne qui a eu son exaucement, et la récompense c'est pour nous parce que ça booste notre foi. Chaque exaucement que l'on a, ça booste notre foi. Nous sommes des témoignages que ça marche et que ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie, ça marche. Voilà. Et ce que ça a changé dans la vie, eh ben, moi qui ne parlais pas parce que j'étais très réservée, aujourd'hui, je peux parler à qui que ce soit, n'importe où, et c'est absolument fabuleux parce qu'il y a une ouverture, les gens ont besoin, ils ont vraiment besoin d'entendre des choses concrètes, des choses qui se passent, et arriver avec un sourire pour parler de Jésus, ça étonne au jour d'aujourd'hui beaucoup. Les gens se croient obligés de taire ou de parler à demi-mot, il faut être discret. Non, il faut pas être discret. Il s'agit pas d'imprégner, hein, avec violence, mais il s'agit de donner des témoignages. Et croyez-moi, quand vous donnez des témoignages de ce que le Seigneur a fait dans votre vie, les gens sont très attentifs, hein, parce qu'ils ont soif, parce qu'ils ont besoin aussi. Donc voilà. Et ce livre, ce journal de prodiges et de miracles, croyez-moi, ça n'est pas rien. Et ça impacte des gens parce que ça devient concret. Et comme je dis toujours, avec le virtuel aujourd'hui, on peut faire croire aux gens que ce qu'ils voient à l'écran, c'est véritable. Et je pense que ça sera encore pire dans les temps qui viennent, où on pense que ce qu'on voit à l'écran, c'est réel. Mais ce qui est réel, c'est la parole. Ce qui est réel, c'est ce que Jésus a fait. Ce qui est réel, c'est la transformation que le Seigneur fait dans nos vies. C'est absolument fabuleux. Et la démonstration, quand il dit « ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai », c'est le moment de dire aux personnes « je vais prier dans le nom de Jésus et vous allez voir ce qui se passe ». Et on voit ce qui se passe et c'est authentique. Et c'est quelque chose qui est, dans l'époque où nous vivons, c'est majeur. Que l'on voit concrètement, ça fait rire quand c'est mon mot, moi, concrètement. Parce que les théories, les philosophies, il y en a. C'est magnifique, c'est très bien, ça aide. Mais ce qui aide vraiment, c'est ce qui est concret. Il est vivant, il agit encore aujourd'hui, et nous pouvons témoigner de ça. Voilà, donc il y a beaucoup à partager.
Merci. Je vais juste vous lire ce passage, si vous avez votre Bible, dans Jean au chapitre 15. Il nous est dit au verset 5, 6, 5 à 10. Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, il brûle. Verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et ça vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Tout le monde a déjà vu une vigne ? Si vous n'en avez jamais vu, vous pouvez aller dans la Coulée Verte à Nice. Ils ont planté des vignes, des plants de vignes. Et je ne sais pas s'ils y sont encore, je pense qu'ils y sont encore, vers le milieu de la Coulée Verte. Et donc, le cep, c'est ce pied de vigne qui porte, qui est dans le sol et qui porte la sève, si vous voulez, qui la transmet au sarment. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que trop souvent, en tant que sarment, on a le sentiment de pouvoir se détacher et faire les choses de notre côté. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Si on veut qu'un sarment puisse continuer à avoir la sève qui coule en lui et que ce sarment puisse finir, c'est-à-dire ses branches, hein, tout simplement, puisse finir par porter du fruit, il faut que le sarment reste connecté au cep. Parce que la vie vient du cep. La vie vient du tronc. La vie vient du pied de vigne. Elle ne vient pas du sarment en lui-même. Et Jésus est en train de dire ici, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais celui qui demeure en moi, donc greffé, si vous voulez, au cep, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Et ensuite, il nous est dit, verset 9, non, pardon, d'abord, il nous est dit, oui, c'est ça, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » C'est-à-dire qu'ici, le schéma est très clair. Dieu le Père a aimé Jésus et Jésus a aimé les gens comme Dieu le Père l'a aimé, c'est-à-dire de cet amour divin. Il dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, alors demeurez dans mon amour. » Et ce que disait Jean-Marc, c'est important tout à l'heure. Il dit « J'avais arrêté de prier le matin pendant un certain temps. » Ce qui veut dire, grosso modo, « J'avais arrêté d'être connecté au cep. » Et un sarment qui n'est pas connecté au cep, c'est un sarment qui sèche et qui ne porte plus de fruits. Ça peut être un sarment qui vient à l'église le dimanche matin, ça peut être un sarment qui lève les mains, mais c'est un sarment qui n'est pas connecté au cep. Le cep, on ne s'y connecte pas le dimanche matin. Le cep, on s'y connecte tous les jours. Et je pense que c'est important qu'on comprenne bien ça, et que les gens qui les écoutent sur Internet comprennent cela aussi. C'est-à-dire qu'il faut, la génération dans laquelle on vit fait tout son possible pour nous distraire, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire nous distraire dans le sens du divertissement, nous amuser, mais aussi dans le sens nous détourner. Et il est important de dire à un moment donné, je vais arrêter certaines choses parce que je veux rester connecté au cep. Sans lui, je ne peux rien faire. Pourquoi ? Parce qu'en étant connecté au cep, tu vas demeurer dans l'amour de Dieu. Et en demeurant dans l'amour de Dieu, tu vas pouvoir aimer les autres. Mais si tu essayes d'aimer les autres sans recevoir l'amour que Dieu a pour toi d'abord, tu es un sarment sec, tu ne pourras pas aimer les autres comme tu dois. Oui, tu vas les aimer de façon humaine. Tu vas donner ton avis, tu vas donner tes bons sentiments, tu vas donner tout ça, mais ça ne sera pas rempli de la vie de Dieu pour la personne. Et il est dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et les commandements, Jésus nous a dit, ils ne sont pas lourds, ces commandements à lui. Son fardeau est léger. Mais pour garder les commandements de Dieu, encore faut-il avoir une relation avec lui. Sans quoi on tombe dans la religion. On va avoir notre liste sur le frigo des 10 points « je dois », des 10 points « je ne dois pas ». On va être déconnecté du cep et on va essayer de porter du fruit avec ça. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc vraiment, je veux vous encourager. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste sur ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé ? À quel moment il t'a transformé ? À quel moment tu peux dire « mon cœur a changé ». Il y a eu un avant et un après. Ce que disait Lisa tout à l'heure. Et il est bon de se souvenir de ces choses-là et de les vivre à nouveau. Si tu sens que ta marche avec Dieu, elle est dure, elle est sèche, c'est peut-être que tu essayes de faire avancer la voiture sans essence. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'huile dans les rouages, il n'y a plus rien et tu pousses. Tu sais, quand t'entends... Vous avez déjà essayé de passer une vitesse, ceux qui conduisent, en appuyant mal sur l'embrayage. Vous voyez ce que ça donne ? Ce truc en disant hop, 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 là j'ai fracassé toute la boîte de vitesse, c'est bon. En fait, non, ça continue de rouler, mais c'est juste que on essaie d'y aller par nos propres forces, ça ne marche pas. Il faut que nous nous connections au cep. Il faut passer du temps dans la prière. Il faut passer du temps à lire les Écritures en méditant les Écritures, pas simplement en mangeant de la page, ça ne sert à rien. Il vaut mieux lire deux versets sur lesquels tu vas t'attarder et sur lesquels tu vas communiquer avec le Seigneur en disant « Explique-moi. Tiens, je n'avais pas vu ça. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Ah, mais ça, je pourrais l'appliquer dans ma vie de telle façon, plutôt que de dire « Ah, je suis content. Hein. J'ai lu mes 3 chapitres du Nouveau Testament, mes 2 chapitres de l'Ancien Testament ce matin. Je tiens bon la Bible en un an, etc. » C'est très bien la Bible en un an, si tu as le temps d'apprécier ce que tu es en train de manger. Si c'est pour faire le marathon de la Bible, tu peux même faire la Bible en une nuit, si tu veux. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Donc vraiment, je veux vous encourager à ce qu'on reste attaché au cep. Où est Émilie ? Elle est sortie ? Elle est avec les enfants ? Tu penses, elle peut donner un témoignage, je voudrais lui demander. Elle n'est pas au courant, donc elle va être contente. Mais... Tu voulais rajouter quelque chose, maman ? Tiens, viens.
Sur les gens qui nous écoutent par Internet, quelque chose de très important. Ne pas dire, oui, mais moi, tu sais, ma vie est très chargée, si tu savais, j'ai un lourd passé, je pense que l'ardoise est un peu trop importante. Alors, il faut vraiment avoir la notion qu'avec l'amour de Dieu, il a le plan B, ce que j'appelle. C'est-à-dire que si ton plan A t'a invité à prendre des décisions qui n'étaient pas les bonnes, à faire des choix qui n'étaient pas les bons pour toi, le Seigneur a le plan B. Il a la capacité de transformer des événements qui n'étaient pas bons en des événements qui sont magistraux. Voilà. Donc, ne pas compter sur ses propres forces, ne pas compter sur « oui, mais ça va peut-être être trop, est-ce qu'il est… » Oui, il a tout porté et il a la capacité de transformer des situations qui étaient un peu, pas irréversibles, mais quasiment, dans des situations magnifiques. Il est juste, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes les iniquités, dit la parole. Et franchement, il n'y a pas de péché qui soit trop lourd pour lui et qui soit irréversible. Voilà, donc vraiment, lui faire confiance, il a vraiment ce plan B, c'est magnifique.
Amen, merci. Oui, Émilie, on parlait du fait de demeurer dans la parole et de donner à la parole de Dieu l'importance qu'elle a. Et tu veux parler en deux mots de l'école biblique que tu es en train de faire, c'est-à-dire pour quelles raisons tu as choisi de dire, bon, toi et d'autres, hein, puisque vous êtes plusieurs à le faire, viens, approche. Pour quelles raisons tu as choisi de faire cet investissement, parce que c'est un investissement personnel, c'est un investissement financier, etc. Comment le Seigneur a ouvert les portes aussi, hein, parce qu'il y a eu des choses jusqu'à présent pour que ça puisse se passer qui sont géniales.
Hein. Ouais. C'est exactement ce dont je suis en train de parler avec les enfants. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de leur parler de la Bible, en fait, et de la parole de Dieu. Et je leur ai donné mon témoignage. Moi, j'ai toujours cru qu'il était possible de vivre différemment. Mais depuis toute jeune, en fait, je me suis posé beaucoup de questions et je n'avais pas de réponse. Dans mon église catholique, je n'avais pas de réponse. Et dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie travailler à l'étranger, je suis partie en Inde. Et j'ai posé des questions et là-bas, on m'a donné des réponses que j'ai cru à l'époque. Et j'étais dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, et tout ça m'a menée en Australie. J'avais 25 ans, 27 ans. J'étais en Australie. Et j'étais dans un centre hindouiste, en pleine méditation. Et voilà, pour moi, j'avais trouvé ma voie. Et à ce moment-là, en fait, le Seigneur est apparu. Il est apparu devant moi, alors que j'étais en train de méditer. Et j'étais sous une douche, vraiment une douche d'amour pendant 20 minutes. Et là, j'ai compris que j'avais fait fausse route. J'ai compris que les réponses à mes questions, je ne les trouverais pas dans la méditation, dans l'hindouisme, en fait, dans une introspection. Ce n'est pas là que je trouverais les réponses à mes questions. Et en fait, tout ce chemin, je ne sais pas si vous mesurez, mais j'ai parcouru, j'étais donc à l'opposé de ma vie. Je suis allée en Australie, j'ai traversé des milliers de kilomètres, j'ai fait tout ça toute seule. C'était l'achèvement d'un voyage qui a duré 3 ans. Tout ça pour pas avoir à ouvrir une Bible, en fait. Jamais de ma vie j'ai ouvert ma Bible. Je me suis posé des questions, mais j'ai jamais cherché la réponse alors qu'elle était juste sous mes yeux. J'ai posé des questions à mon entourage, mais j'ai jamais ouvert une Bible. Pour ne pas avoir à ouvrir une Bible, j'ai traversé les océans, j'ai fui au bout du monde. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de voir avec les enfants à côté. Je leur ai donné des jeux, mais sans leur donner les règles du jeu. Ils essayaient de trouver comment jouer à des jeux, à l'attrape-chat, à des petits jeux. Et je leur ai dit, bah ouais, vous voyez, moi j'étais pareil en fait. J'essayais de jouer à un jeu, mais j'en connaissais pas les règles. Et le jour où je suis arrivée dans cette église, et ben, en fait, j'ai vu le pasteur. En fait, le pasteur, c'est lui qui m'a donné les règles du jeu. C'est le pasteur, c'est celui qui nous explique Donc quand après j'ai pu leur donner les règles du jeu, ils ont tous joué. Donc là, ils sont en train de jouer et ils sont contents de jouer. Ils jouent parce qu'ils ont les règles du jeu. Et c'est le rôle d'un pasteur, c'est de nous quelque chose qui est complexe, de nous aider à trouver l'objectif en fait. Quel est le but du jeu? Quelles sont les règles? Et donc cette école biblique là, ça a été même difficile pour moi d'ouvrir la Bible parce que j'avais été tellement menti. Je pensais que la Bible était réécrite, retravaillée. Enfin bref, on m'avait tellement menti. Il a fallu que je change mes perceptions, que je change ma manière de penser. Et c'est ça qui a été transformateur en fait. Ça a été vraiment de me dire, et je me suis forcée à me dire, je crois ce qui est écrit, je crois, même si je n'y croyais pas. Et à un moment donné, ça a été un pivot, j'ai dû faire un pas de foi et dire, ok Seigneur, même si je n'y crois pas, j'y crois quand même. Je sais que c'est un peu difficile mais à comprendre, mais voilà, j'ai fait ce pas de foi, je dis ok, j'accepte de mettre ta parole avant tout. Et voilà, ça a vraiment commencé à transformer ma vie. Et ensuite, j'ai vraiment voulu vraiment me nourrir en fait, me nourrir de cette parole. Et j'ai prié et je voulais donc aller à Andrew Womack. Et quand j'ai prié, finalement, j'avais cette sensation de vouloir faire la formation à distance. Et pareil, donc une grande bénédiction, c'est que j'ai pu avoir un poste d'enseignant à Nice en tant que remplaçante, ce qui me laisse tous les après-midi, ce qui me laisse toutes les soirées pour tous mes week-ends, toutes mes vacances scolaires, donc pour faire cette école biblique-là. Et quand j'ai continué à prier, le Seigneur m'a montré le pasteur. Alors je voyais le pasteur, je dis ok, bon bah je prends rendez-vous avec le pasteur, et elle m'a dit, mais ça fait longtemps que je prie pour toi, mais pas seulement pour toi, aussi pour d'autres personnes dans l'église, pour que vous commenciez ensemble ce groupe. Donc nous sommes aujourd'hui 10, puisqu'il y a Nancy qui nous a rejoint, peut-être 11. Voilà, ouh, c'est vrai. Donc nous sommes 11, et donc nous sommes en contact avec Caris UK. Ça fait 2 mois qu'on a commencé et l'échange, moi j'ai l'impression que ça fait déjà un an. Que c'est vraiment, c'est une très très grande bénédiction et ça permet vraiment de se nourrir de la parole.
Est-ce qu'il y a une chose qui t'a marqué particulièrement dans ce que tu as appris jusqu'à présent à cette école biblique? Quelque chose qui vraiment t'a transformé ou une révélation particulière que tu as eue sur un sujet? Il y en a peut-être plusieurs, mais...
Ouais. Alors le principal, c'était le module 2, donc Righteousness of God. Et alors il y avait une phrase, la justice, oui, nous sommes la justice de Dieu, ce qui est un peu difficile à traduire, mais il y avait une phrase que j'ai écrite de Andrew Mack et il disait, You don't have to be worthy to be used by God. Donc ce qui signifie, tu ne dois pas mériter quoi que ce soit pour que Dieu t'utilise. Alors moi, j'avais mis un petit triangle avec le point d'interrogation au milieu. Ça veut dire attarde-toi là-dessus. Et donc, j'ai présenté ça au Seigneur. J'ai dit, mais attends, mais moi, je pensais qu'il fallait quand même que je mérite pour que tu m'utilises. Je sais que tu vas m'utiliser. Je veux que tu m'utilises, mais je dois bien en être digne quand même. Et en fait, là, il m'a répondu clairement. Il m'a dit, tu n'as pas. Qu'est-ce qu'il m'a dit exactement? Il m'a dit, tu m'as. Je t'ai créé. Tu ne peux pas me pousser à t'aimer. Je t'ai créé pour t'aimer. Et tu ne me dois rien. Et ça, en fait, le « tu ne me dois rien », je me suis dit « mais c'est pas possible ». Il m'a tout donné, comme disait Pasteur Marc, tout ce qu'on a, c'est grâce à lui. Il m'a tout donné et moi, je ne lui dois rien. Et là, j'étais « waouh ». Alors non, ça pas tout de suite, hein. 2-3 jours après, il m'a fallu 2-3 jours pour digérer. Et j'ai vraiment eu cette révélation « oui, je ne lui dois rien ». Tout ce que je fais, c'est pas pour mériter, pour être digne de quoi que ce soit, je suis déjà digne et c'est que par amour.
Et
merci beaucoup. Merci. Sarah, viens. Dis une chose que cette école biblique, tu as comprise. Viens, viens. Voilà, démonstration par l'exemple. Émilie disait tout à l'heure, bon, même si je ne croyais pas, il a fallu que je croie. Le mot grec, pistis, ça implique plus que le fait d'acquiescer intellectuellement à quelque chose. Ça veut dire, c'est un effort de volonté à un moment donné de dire, je place ma confiance en. C'est ça que ça veut dire. Donc des fois, notre cerveau n'est pas capable de tout comprendre, mais il faut dire, Seigneur, je veux placer ma confiance dans ce qui est en train d'être écrit. De la même façon, quand je dis à ma femme, viens et dis quelque chose, la première chose à faire, c'est de se lever et de venir. Même si tu es en train, en marchant, de dire, attends, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? C'est pas grave, ça s'appelle la foi. C'est ça la foi. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? La question est simple. Dans ce que tu as étudié jusqu'à présent à l'école biblique, est-ce qu'il y a une chose que tu as comprise, qui a été une révélation pour toi, ou que tu as aidé à mieux comprendre, ou... sans forcément donner tous les détails, hein, des fois c'est des trucs privés. Ouais. Ou est-ce que tu dis, jusqu'à présent, non, j'ai gratté du papier, mais je ne peux pas dire que ça m'ait apporté quoi que ce soit.
Non, je n'arrive pas à déterminer. Enfin, il doit y avoir des trucs parce que je sais qu'il y en a, mais là, ça ne me vient pas. Mais une chose que je sais, c'est ça débloque des choses en moi. C'est-à-dire que moi, je suis chrétienne depuis que je suis petite. Il y a des choses que je sais depuis que je suis petite, mais il y a certaines choses que je sais avec la tête qui ne sont pas descendues dans mon cœur. Et des fois, j'ai des choses sur lesquelles je bloque, ou je me la suis compliquée, ou j'en sais rien, ou je fais machinalement. Et je sais qu'en faisant cette école biblique, je ne saurais pas vous dire quoi exactement, parce que ça ne me vient pas là tout de suite, mais je sais qu'en faisant cette école biblique, ça m'a... Oui, il y a des verrous qui sautent, et il y a des choses qui me semblent plus faciles et plus claires, mais j'arrive pas à expliquer quoi exactement, mais je sais que c'est en train de... Voilà, c'est en cours, quoi. Et
Des petites choses. Cherche pas forcément à réinventer la roue. Juste un petit truc où tu dis, ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Ça, c'est quelque chose qui m'a éclairé.
Oui, mais là, je... Ok. C'est assez flou, là. Ouais, okay. Donc, voilà.
Merci, quand même. C'est bon. En tout cas... L'idée, c'est que, et ce qu'elles ne vous disent pas ou ce qu'ils ne vous disent pas, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que c'est un investissement. Pas que financier, parce que bon, ce qu'Emilie n'a pas dit, c'est que c'est avec l'autorisation du ministère d'Andrew Mac hein, que cette faveur a pu leur être accordée. Ces faveurs ont pu leur être accordées. Mais c'est un investissement parce que, d'abord, c'est une petite dépense. Alors, j'ai entendu quelques souffles se retenir en « Oh, 4000 euros pour l'année, tu te rends compte ?» Vous n'imaginez pas le nombre d'heures d'enseignement que vous avez. Et quand vous faites le calcul, je crois que ça revient à... C'est complètement ridicule, c'est 4 euros l'heure d'enseignement ou quelque chose comme ça. Allez trouver un prof de maths qui vous fasse à 4 euros l'heure. Une babysitter qui garde vos enfants à 4 euros l'heure. Ou du ménage chez vous. Donc, il y a des investissements. Vous savez, on parlait d'investissement tout à l'heure, et c'est un investissement humain aussi, parce que ça nécessite de prendre sur son temps libre, ça nécessite de réorganiser la maison, ça nécessite beaucoup de choses, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et vous savez, quand les gens décident, et encore, on a cette grâce de pouvoir le faire par correspondance, il y a des gens qui doivent tout plaquer, prendre un avion et aller aux États-Unis pour le faire. Quand notre pasteur Marie-Hélène, dans les années 80, a décidé d'aller faire son école biblique, ben, il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas d'Internet, hein. Donc, vous preniez un avion, vous quittiez votre job, vous disiez au revoir à votre famille, vous rendiez les clés de votre logement et vous partiez aux États-Unis ou ailleurs faire votre école biblique. Des fois même avec un anglais très approximatif en disant « Seigneur, comment je vais pouvoir faire ?» Et Dieu a été au rendez-vous. Dieu a été au rendez-vous à chaque fois. Donc voilà, c'est l'accent qui était mis par le Saint-Esprit aujourd'hui, c'était de dire « Dieu est vivant et il fait des choses dans notre vie ». Notre relation avec lui est fondamentale. Et il ne s'agit pas de vouloir faire quoi que ce soit en étant déconnecté de lui, mais au contraire, il est temps d'appuyer sur l'accélérateur pour dire « Seigneur, je vais me greffer au CEP plus que jamais. » Plus que jamais. Et ce monde regorge d'ingéniosité pour essayer de faire en sorte que les gens ne voient pas leur vie leur filer entre les doigts. Au quotidien, je ne parle pas de grandes décisions, je parle au quotidien. On se retourne et on dit, mais c'est pas possible, il y a déjà une journée, une semaine, un mois, une année qui est passée. Et tu multiplies ça par X, et à un moment donné, tu arrives à la fin de ta vie, et tu dis, à quoi est-ce que je l'ai consacré ? Mais on a la possibilité de dire, non Seigneur, je ne vais pas me laisser embarquer avec le train de ce monde, et je vais décider délibérément de me connecter au CEP, de plus en plus, de plus en plus. Vous savez, moi qui étais quelqu'un qui a toujours été très cinéma, télévision, écran de manière générale, j'en ai de moins en moins, même pas besoin, envie. J'ai presque une aversion pour, à un moment donné, passer 2 heures devant un écran en disant, mais je sens un désir en moi d'aller vers les choses de Dieu et d'arrêter de passer du temps comme le monde passe du temps. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais j'entendais Bob Yandian dire exactement la même chose. Bob disait, plus le temps passe, plus les gens du monde me trouvent rébarbatif, parce que qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, je me régale dans la parole de Dieu. Et les gens vont dire ça à quelqu'un qui ouvre de grands yeux comme ça, en pensant que tu es seul dans une chambre de monastère, tu sais, isolé, avec une tonsure, etc. Non, absolument pas. Absolument pas. Mais je crois que plus le temps passe, plus le Seigneur nous appelle, il nous attire à lui, et il ne faut pas résister à cela. Et comme le disait Émilie tout à l'heure, c'est ce fait... Elle ne le savait pas, mais ce qu'elle était en train d'écrire, c'est la définition même de la foi. C'est, même si je ne comprends pas avec mon intellect, je suis mon cœur et je saute, je fais le pas d'aller en avant parce que je veux mettre ma confiance dans celui en qui je crois. Celui, Jésus est une personne. Plus on avance, plus on apprend à la connaître, à le connaître. Mais nous croyons en lui, pas en une doctrine, pas en une philosophie, pas en une église, pas en un pasteur. Nous croyons en lui. En lui. Et il faut passer du temps à se donner, je dirais, à ces choses-là. Quand tu lis la Bible, une fois encore, attarde-toi sur ce que tu es en train de lire. S'il y a un sujet où tu te rends compte que tu aimerais en savoir plus, prends le temps d'étudier le sujet en question. Tu voulais dire quelque chose ? Bien. Prends le temps d'étudier le sujet. Demande-nous, on est là pour ça. Les pasteurs sont là, c'est ce que disait Émilie, c'est notre job de pouvoir former le corps de Christ. Viens, Tristan. Tu as un sujet, il y a des livres sur le sujet, il y a des écoles bibliques sur le sujet. Développe cette chose-là en toi.
Yes. Pour ajouter à ce que tu disais, j'écoutais un entrepreneur français en fait, qui expliquait qu'en fait, Facebook aujourd'hui, c'est 4 fois Total en bourse. Total, le pétrole. Et en fait, il disait que ce qui se paye aujourd'hui, les gens s'enrichissent. Facebook s'enrichit parce qu'ils ont le monopole de l'attention, en fait. Et ils achètent l'attention des gens. Et aujourd'hui, les gens s'enrichissent avec l'attention. Même en anglais, on dit « pay attention ». C'est-à-dire que c'est payer l'attention. Et c'est vraiment ça, en fait. Et c'est choisir. Il y a vraiment cette tentation à être distrait aujourd'hui, de nos jours. C'est tellement facile de passer son temps sur tout ce qui est vain, quoi. Et on perd vraiment les choses qui sont essentielles et qui ont le poids éternel de gloire. Après, le fait pour moi personnellement de faire cette école biblique, c'était vraiment de choisir de mettre mon temps, même après mon idée de start-up, tout ça qui me prend énormément de temps, c'est vraiment de décider de mettre à part ce temps-là et de mettre mon attention sur ce livre qui est la Bible. Et qui voilà, on a une vie pour l'étudier, l'éternité, mais cette vie-là pour l'expérimenter sur cette terre, et on doit y donner du temps et de l'attention en fait. Et voilà. Et après pour le témoignage plutôt sur la partie finance pour l'école biblique, c'est vrai que ça a été vraiment un privilège quoi de pouvoir faire cette école biblique. Et moi, voilà, quelques mois avant de signer, j'avais aucune finance, parce que je ne me rémunère pas du tout via ma start-up, tout ça, pour l'instant. C'est en cours. Mais voilà, j'avais aucune finance vraiment à consacrer pour ça. Et Dieu vraiment a fait... a créé ce chemin pour que voilà, je puisse vraiment financer, autofinancer cette école biblique, quoi. J'avais un bien à vendre et là, le jour d'avant, le 2 jours avant le paiement, ce bien s'est vendu. Alors j'avais même pas envoyé le bien à l'acheteur, qu'il m'avait déjà payé, et ça m'a permis de pouvoir régler l'école biblique, quoi. Donc voilà, merci Seigneur.
J'ai prié pour toi.
Yes.
J'ai à cœur de le faire, Seigneur. Je déclare qu'il est loin pour prospérer au nom de Jésus de Nazareth.
Il a été béni en Christ, il porte ça sur lui, Seigneur. J'invoque, Seigneur, ton nom, ta gloire, ange de Dieu, maintenant servez-le au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, tu es oint pour prospérer et ça se voit. Les gens du monde le voient, les entrepreneurs le voient, les riches de ce siècle le voient. Oint pour prospérer au nom de Jésus de Nazareth. Pour la gloire de Dieu, je t'appelle à aller témoigner à des entrepreneurs, à des hommes politiques, à des investisseurs, à des décideurs, à des influenceurs, à des gens qui comptent aujourd'hui dans l'opinion publique. Je t'appelle à ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Anna, pour terminer,
qu'est-ce que ça a changé dans ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu as compris?
Donc j'allais partager avec vous une partie de mon témoignage personnel. Et en 2014, j'allais finir mes études. Donc j'ai fait 5 ans d'études à la fac après le bac. Et 2-3 semaines avant la fin de ma dernière année, j'ai fait une dépression nerveuse. C'était comme ça. Bien sûr, ça commence bien avant, mais ça m'est tombé dessus. Et j'ai pris ma valise, je suis rentrée chez mes parents, ce qui fait 7 heures de route à peu près. Et le pasteur a dit que la vision te donne un argument contre la mort. Et pendant ce temps-là, entre autres, le Seigneur m'avait montré une image de moi et je traversais l'estrade pour la cérémonie de diplôme, la remise de diplôme. C'était pas possible. J'avais, oui, 3 semaines à faire, mais si tu finissais pas les 3 semaines, tu n'as rien. Tu as fait 5 ans, mais tu n'as rien. Et je voyais cette image, donc j'ai gardé ça devant mes yeux, même si ça me paraissait pas possible. Et en fait, le papier, ça, c'est rien. C'est que ça représentait le fait que j'allais passer les dernières semaines et les examens et j'allais sortir de là. Je savais pas comment. Et donc, ça s'est fait. Et puis, ce temps-là, ça a duré 2 ans à peu près. Et pendant ce temps-là, mes parents se sont divorcés. Donc, je suis rentrée chez eux, j'étais dans la crise. Et eux se sont divorcés avec beaucoup d'animosité. Donc, c'était pas une période très agréable. Mais le Seigneur était là, il nous a placés dans une bonne église où ils enseignaient la parole en Angleterre. Et à la fin des 2 ans, je suis venue ici. Et c'est quand même un processus. Mais une des choses qui m'a vraiment aidée, c'est que le Seigneur m'a expliqué ce que c'est d'avoir une relation avec lui. Parce qu'on est tous, uniques, ce qui veut dire que, par exemple, la relation que j'ai avec Lisa, ce n'est pas la même que la relation que j'ai avec Lydia ou avec Nancy. Parce que Nancy, elle est unique, Lisa, elle est unique, ce qui veut dire que ça ne peut pas être la même chose. Et Dieu m'a dit, puisque moi je suis unique, la relation que j'ai avec lui, c'est unique aussi. Et il a une partie de son cœur qu'il a consacrée à moi et pour ma relation avec lui, qui ne peut pas ressembler à la relation qu'il a avec Tristan ou qu'il a avec Nancy ou peu importe. Ma relation avec lui, c'est à moi. Et je peux aller un peu dedans ou je peux aller à fond dedans. C'est à moi de décider parce que lui, il a déjà tout donné pour me donner cette relation avec lui. Ça m'a aidé qu'en fait, de voir ça, pas comme quelque chose de mécanique, parce que j'étais beaucoup dans les mécanismes, mais en fait de rechercher Dieu et ce qui est individuel et ce qui est pour moi. Ce qui veut dire que ma relation que j'ai maintenant avec lui, ça ne ressemble pas du tout à la relation que Pasteur Marc il a avec Dieu. Pas du tout, parce que c'est la mienne, ça m'appartient.
Exact. Amen, merci. Gloire à Dieu. Voilà, eh bien, écoutez, c'était le culte qu'on a rendu à Dieu aujourd'hui. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai entendu. Et, c'est encourageant. Revenez dimanche prochain. Donc, ils vont revenir, ceux qui sont partis en Israël, avec sans doute beaucoup de choses à raconter, je pense, et de nous expliquer ce que Dieu fait sur place, ce qu'eux ont compris de Dieu pendant qu'ils sont allés sur place. Et donc, gardez-les dans vos prières, hein, parce que, une fois encore, nous sommes un corps. Donc, une partie du corps ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans l'autre partie du corps. Si le Seigneur fait en eux, là-bas, ce qu'ils doivent faire, eh bien, quand ils vont revenir, notre Église va en bénéficier et sera changée en conséquence. Pas uniquement les pasteurs, je parle de tout le corps. Ok ? Et quoi d'autre ? Rien, les réunions de prière sont maintenues cette semaine. et je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine.